Chapitre 4. Loriot se remit enfin. Nous passerons rapidement sur les jours qui suivirent sa convalescence. C'était le train ordinaire de leur vie qui continuait. Il n'y eut pendant un certain temps aucun nuage. La mer semblait éviter avec soin les allusions qui pouvaient donner lieu à des querelles. La dernière espérance de Jacques et de Charlotte semblait donc devoir se réaliser. Justine était revenue à plus de bonté et à une appréciation plus juste de la situation. Elle avait sans doute réfléchi que son obstination entêtée causerait des malheurs irréparables. Elle devinait sans doute aussi que cette obstination était inutile. Voilà ce qu'il pensait. Mais, dans la crainte d'irriter la vieille par le tableau de leur bonheur, Jacques et Charlotte se gardaient toujours, quand elle était là, de rien laisser paraître des ardeurs qu'ils ressentaient. Leur amour en était arrivé à ce point qu'ils ne pouvaient plus se passer l'un de l'autre. Alors, pour se voir, ils continuaient d'avoir recours à des expédients. Loriot feignait souvent d'être appelé dans les villages voisins pour des affaires urgentes. Il partait dans l'après-midi après avoir donné rendez-vous à Charlotte. Le soir, celle-ci, au lieu de prendre en sortant de la boucherie le chemin de la gare, remontait d'abord la rue des Princes pour éviter d'être surprise par Justine qui la guettait souvent, mais aussitôt faisait un détour et se retrouvait bientôt dans le bois de Meudon, à l'endroit que Loriot lui avait désigné et où il l'attendait la plupart du temps, bien avant son arrivée. Ils restaient ensemble une heure ou deux, puis se séparaient, Loriot pour retourner à la boucherie, Charlotte pour gagner la gare et prendre le train de Paris. Il croyait ces rendez-vous ignorés de Justine. Or, depuis longtemps, celle-ci en avait pénétré le secret. Mais telle était sa dissimulation, que Loriot lui-même, bien qu'il fût prévenu, s'y laissa prendre. Il s'imagina que le moment était venu de tenter un dernier effort auprès de sa mère. Ce fut un malheur. Un soir, Charlotte était partie, Denise était couchée déjà et Loriot se trouvait seul dans l'arrière-boutique avec sa mère qui travaillait à un ouvrage de couture. Ils étaient là, tous les deux, ne s'adressant pas la parole, chacun sentant de son côté qu'ils en étaient arrivés à une explication définitive, qu'ils retardaient tous les jours depuis longtemps parce qu'ils la redoutaient. « Vous ne me dites rien, ma mère, » dit Loriot. La vieille releva la tête, feignant d'être surprise. « Mais je n'ai rien à te dire, apparemment, mon garçon. »« Ah, excusez. » Il y eut un moment de nouveau silence. On entendait seulement le petit bruit sec de l'aiguille tirée par la mère. Au dehors, il faisait un temps très calme. La rue et la campagne dormaient. « Bien, c'est que moi j'ai à vous parler, » dit Loriot, craintif. Même jeu de scène de la part de Justine, qui dit, en relevant la tête, mais sans cesser de travailler, « Eh bien, va, mon fils, je t'écoute. Je voudrais me marier, ma mère. Oh, je ne te reproche pas, mon fils, t'es dans l'âge où les garçons prennent une femme. » « Ah, mais je suis content de voir que vous m'approuvez. »« Oui, j'approuve ta résolution. »« Mais je voudrais bien savoir, si tu as jeté les yeux sur une jeune fille, tu désires sans doute me consulter, afin que je puisse te dire si cette jeune fille te convient, si elle fera une ménagère sage et économe. Alors, dis-moi son nom, seulement. »« Je regrette un peu que tu sois avancé autant et qu'avant d'être résolu au mariage aussi fermement que tu parais l'être, tu ne m'aies pas demandé conseil. Les unions qui se manigancent comme ça en dehors des parents, vois-tu Jacques, réussissent rarement. Enfin, ce qui est fait, fait. Allez, parle. Oh, je ne mérite pas ces reproches, maman. Car cette jeune fille dont je voulais faire ma femme, vous la connaissez. Et tant mieux, qu'est-ce donc? C'est Charlotte. Est-ce que vous ne l'aviez pas deviné? Non, dit Justine, impassible. Ils se turent. Une minute après, ce fut la vieille, cette fois, qui reprit. Je veux pas entendre parler de cette fille. Si j'ai quoi sortir, si elle a pris sa place à la boucherie, c'est que tu étais malade. Mais depuis, j'avais cru que tous les deux vous aviez réfléchi, que c'était peine perdue de songer à vous marier. Je le vois maintenant, je m'étais trompé. Je te le dis, Jacques, c'est déjà bien assez que Charlotte soit la maîtresse, sans qu'elle devienne encore ta femme et qu'elle se mette à donner des ordres ici. Mais Charlotte n'est pas ma maîtresse, dit Loriot simplement. La vieille haussa les épaules. Mais je vous le jure, ajouta le boucher. Peut-être bien que ce n'est pas l'envie qui nous manquait à l'un et à l'autre, mais nous nous disions à quoi bon faire des frasques, puisque un peu plus tôt, un peu plus tard, nous serons mari et femme. Jamais ça n'arrivera. Mais pourquoi? Eh, parce que je m'y opposerai. Mais ce n'est pas la première fois que vous me le dites, mais je ne l'ai pas cru. Vous savez bien que votre opposition ne servira de rien, et que si j'ai envie d'épouser Charlotte, je l'épouserai malgré vous. La vieille, toute saisie, laissa tomber son aiguille. Ton amour pour cette fille sera maudit puisqu'il te rend mauvais fils, toi qui étais si bon et qui m'aimais tant. Mais je vous aime toujours, ma mère, mais vous êtes injuste envers Charlotte, et votre haine pour elle n'a point d'excuse. Est-ce que, depuis qu'elle est à la boucherie, elle ne s'est pas montrée pour vous tendre et respectueuse? Devant votre aversion, elle s'est tenue sur la réserve, mais à qui la faute? Ce n'est pas elle qui a été grossière, brutale, cruelle même envers vous. Ce n'est pas elle qui vous a insulté. Vous lui avez fait subir toutes sortes d'humiliations depuis son entrée chez nous. Il lui a fallu bien du courage pour rester. Si elle est restée, c'est qu'elle m'aime, vous ne pouvez pas avoir de doute là-dessus. Et moi, je le lui rends bien. Vraiment, ma mère, j'ai beau chercher, je ne vois pas quel reproche vous pourriez faire à Charlotte. Elle est laborieuse et sage, elle n'est pas coquette, et elle est adroite de ses mains. Faudrait pas exiger trop non plus. Si tu veux me faire plaisir, ne me parle plus d'elle. Il faut pourtant que vous décidiez, ma mère. Et si je ne me laisse pas convaincre? Alors, vous m'obligerez à quitter la boucherie. J'irai m'installer à Paris. Oh, je trouverai facilement de l'ouvrage. On me connaît, on sait que je suis fort. Puis, après mon mariage avec Charlotte, comme elle a 10 ou 12 000 francs de dot, je m'établirai à mon compte et avec beaucoup de prudence, avec beaucoup d'économie. Je suis sûr que nous réussirons. Ah, tu avais songé à toutes ces choses-là. Tu avais pris la résolution de me quitter. Ton plan était fait. Mais depuis longtemps, ma mère, je ne veux point passer le reste de ma jeunesse au milieu de querelles constantes. Les querelles, ça me rend malade. J'ai jugé qu'il était temps d'en finir. Justine ne répondit plus et cessa de discuter. Elle avait repris son travail un moment interrompu. Sa main, armée de l'aiguille, s'agitait fiévreusement. Elle baissait la tête obstinément sur sa poitrine, n'osant plus relever les yeux vers Loriot. Celui-ci également restait silencieux, mais son regard, attaché sur le visage de sa mère, essayait d'en fouiller les rides, scrutant toutes les pensées que reflétait sa physionomie. À la fin, se levant et se dirigeant vers l'escalier pour gagner sa chambre, J'espère que vous me direz bientôt ce que vous aurez décidé. » Et il monta les premières marches. La voix de sa mère qui l'appelait l'arrêta. « Jacques !» disait la vieille brusquement. « Puisque tu le veux, puisque tu serais malheureux sans cette fille, me marie-toi » Elle avait un éclair dans les yeux. Elle s'était levée, mais lorsqu'elle entendit Loriot qui redescendait l'escalier et revenait sur ses pas, elle s'assit de nouveau et son regard s'éteignit. Le boucher s'approcha d'elle, lui prit la tête dans ses deux grosses mains rouges et l'embrassa plusieurs fois avec force. « Enfin !» dit-il tout joyeux, avec un soupir de soulagement, comme si un énorme poids eût été enlevé de sa poitrine. « Enfin ! Oh, mais ça n'a pas été sans peine, maman !» Le lendemain, dans la matinée, Loriot, après avoir raconté la scène précédente à Charlotte, ajoutait « Je suis obligé d'aller cet après-midi chercher un bœuf à Viroflay à la ferme Gaillot. Je reviendrai vers 6 ou 7 heures. Tâchez de vous trouver vers ce moment-là, à l'ermitage de Villebon. Nous causerons un peu en nous promenant dans le bois, puis nous regagnerons Meudon. Puisque nous allons être fiancés, nous pourrons désormais nous montrer ensemble et nous ne serons plus tenus à autant de réserves, à autant de précautions. » Charlotte avait promis. Quand le soir arriva, la jeune fille quitta la boucherie et prit le chemin du bois. Nos lecteurs savent qu'elle rencontra le grand Loriot. Ils savent encore ce qu'il advint. La promenade des deux jeunes gens pendant 1 heure, puis la fuite du bœuf à travers les arbres. Ils se rappellent la déposition du boucher qui avait dit au juge d'instruction, M. de Valtemar, qu'obligé de courir après son bœuf, il avait donné son fouet à Charlotte en lui conseillant de retourner à Meudon sans plus tarder à cause de la nuit qui arrivait. Charlotte avait pris le fouet en souriant. « Oh, dit-elle, je ne suis pas peureuse, je serai à la gare de Meudon avant qu'il fasse tout à fait nuit. » Loriot s'était jeté dans le bois et Charlotte était restée seule. Comme il faisait très beau ce soir-là, elle ne se pressa pas. Elle suivait doucement, à petits pas, le sentier qui serpente dans les broussailles, respirant avec délice l'air tiède et embaumé de la nuit. Le soleil venait de se coucher et les premières ombres indécises du crépuscule flottaient en haut des arbres. Le bois se taisait, comme endormi dans un recueillement. Pas une branche ne bougeait, pas une feuille. Il semblait à Charlotte qu'elle respirait plus librement. Son âme se dilatait aux douceurs de cette soirée paisible. Elle se disait que maintenant tout était fini et que la mère de Loriot ne s'opposerait plus à leur mariage. Certes, ils avaient été, elle et Jacques, assez malheureux depuis qu'ils s'aimaient. Il méritait bien d'être tranquille. La vie allait être douce désormais. Elle avait déjà le consentement de Justine, c'était beaucoup, mais cela ne lui suffisait pas. Elle se promettait, à force de soins, de tendresse, de conquérir l'estime de la vieille d'abord, son amitié ensuite. Elle était bien certaine d'y arriver avec le temps. La bouchère verrait qu'elle s'était trompée et que les répulsions que lui inspirait la jeune fille n'avaient pas de motif sérieux. Et Loriot, lui aussi, allait vivre d'une vie bien calme, tout à sa besogne et sans souci. C'est qu'elle l'aimait, ce grand garçon, si doux et si naïf. Ah oui, elle n'avait eu qu'un regret depuis qu'elle s'était sentie attirée vers lui. Ça avait été de voir que leur affection semblait éloigner Loriot de sa mère. Elle avait eu peur d'être coupable en cela. Elle ne s'en était point cachée à Jacques, qui l'avait tranquillement rassurée en disant « Oh non, vous lui faites point de tort. J'ai beau vous aimer, ça m'empêche pas d'aimer ma mère. » Et voilà ce qu'elle pensait, tout en marchant sous le bois, pendant que du bout de sa lanière courte, de son fouet, elle écartait et faisait voltiger les branchettes tortueuses des ronces, qui s'allongeaient comme des couleuvres sous ses pieds et lui barraient le chemin. En général, lorsqu'elle revenait ainsi de ses rendez-vous avec Loriot, elle évitait, pour gagner la gare, de passer devant la boucherie. Elle prenait une autre rue et de cette façon n'avait pas à craindre de se trouver face à face avec Justine. Mais ce soir-là, elle ne fit aucun détour. « À quoi bon me cacher ?» pensa-t-elle, « puisque Madame Loriot consent à notre mariage. Jacques est en train de courir après son bœuf. Il peut rentrer très tard dans la nuit et si je préviens sa mère, elle ne sera pas inquiète. » Tandis qu'au contraire, elle croirait peut-être à un accident. Et quand elle fut à l'entrée du village, elle n'hésita pas et prit la rue des Princes. De loin, elle aperçut la vieille, debout sur le seuil. Elle eut une émotion bizarre et son cœur battit avec violence. « C'est drôle, murmura-t-elle. On dirait que j'ai peur. » Et instinctivement, elle s'arrêta, prise d'un frisson, et un moment, elle eut la pensée de rebrousser chemin. Mais Justine l'avait aperçue. Alors, elle continua d'avancer et se trouva devant elle. « Tiens, c'est vous, mademoiselle Charlotte, » dit Justine. « Vous croyez repartir pour Paris. Entrez donc, vous avez le temps. Vous regagnerez la gare par le train de 9 heures. » Charlotte, un peu rassurée, entra. « Si je ne suis pas partie, » dit-elle pour s'excuser, « c'est que Jacques m'avait dit de me trouver à Villebon. Alors, j'y suis allée et nous avons causé ensemble pendant quelques minutes, puis je suis revenue. »« Sans lui ? » ?»« Oh oui, il faut vous dire que son bœuf s'est échappé de ses mains, s'est jeté dans le bois et que Jacques a été obligé de courir après. Il entrera un peu tard, probablement à cause de cela. » Alors il m'a dit de vous tranquilliser en vous racontant toutes ces choses. Bon, ben voilà qui est fait. Maintenant, je vais partir. Bonsoir, Madame Loriot. À demain matin. Alors, ben non, ne parlez donc pas, Mademoiselle Charlotte. Entrez, que je vous dis. Est-ce que nous n'avons pas beaucoup de choses à nous raconter? Vous prendrez l'autre train. Charlotte obéit. Puisque Loriot n'est pas là, vous allez m'aider à fermer la boutique, n'est-ce pas? Fit la vieille. Mais volontiers, Madame Loriot. Les deux femmes mirent les volets sur la devanture, puis les barres de fer destinées à les assujettir. Quand cela fut fini, elles se retrouvèrent dans la boutique, alors plongées dans une obscurité complète. Au dehors, du reste, la nuit était tout à fait venue. Il n'y avait pas de lune et les étoiles scintillaient au ciel par milliers. Une seconde fois, Charlotte se sentit envahie par un frisson. Une peur bizarre la prenait. Elle leva machinalement les yeux du côté où restait la vieille, immobile et silencieuse, et ne put retenir un léger cri. Les yeux de Justine, au milieu des ombres épaisses, flamboyaient comme des charbons ardents. Ah ! Dit Charlotte, comme j'ai eu peur ! La vieille eut un éclat de rire aigu et prolongé. Peur de moi ? Dit-elle. Est-ce que vous croyez par hasard que j'ai envie de vous assassiner ? Oh non ! Fit Charlotte, qui essayait de rire et ne pouvait pas. Bien ! Dit Justine. « C'est un fouet que vous tenez à la main ?»« Celui de Loriot, il me l'a donné en partant pour me défendre si par hasard un ivrogne me cherchait querelle. »« Mais lui, alors, comment il fera pour ramener son bœuf ?»« Oh, il n'est pas en peine, il coupera un bâton dans le bois. » Il y eut un silence. « Est-ce que vous n'allumez pas une chandelle ?» demanda Charlotte. « Avez-vous donc besoin de moi pour ça ?»« Oh non !» Elle posa le fouet dans un coin près de la porte. La vieille, dont les yeux s'étaient habitués à l'obscurité, le saisit aussitôt. Puis d'une voix basse, que la haine étouffait, « Alors c'est vrai, vous avez si bien enjolé mon fils, qui veut vous épouser malgré moi, et qui me laissera toute seule ici, moi qui suis vieille, pour s'en aller avec vous si je refuse. » Charlotte s'était remise à trembler. « Mais puisque nous nous aimons, dit-elle, puisque je vous assure que je le rendrai heureux, et puisque vous avez fini par donner votre consentement. » Justine s'était rapprochée d'elle et la regardait avec tant de cruauté dans les yeux qu'une horrible pensée vint à l'enfant. « Elle va me tuer. Elle m'a tiré ici pour cela. » Épouvantée, elle cria « Au secours ! Au secours !» Mais il lui semblait qu'elle criait dans un rêve et que sa voix, expirant dans sa gorge, refusait de sortir et n'était pas entendue. Alors elle se précipita vers la porte, leva le poing et frappa de toutes ses forces. Tout cela se passait dans une obscurité profonde. Soudain, il y eut un coup sourd, suivi d'une sorte de craquement. Charlotte cessa de frapper. Ses deux bras battirent l'air autour de sa tête. Elle poussa un gémissement. « Jacques ! Jacques !» Puis elle tomba de son long sur les briques et ne bougea plus. La vieille lui avait cassé le lourd fouet sur la tempe d'un seul coup, appliqué avec une vigueur d'athlète. Et en frappant, sa haine s'était exhalée en une exclamation. « Oh, tu as ton affaire, hein ? De longtemps on te reverra !» Puis à l'horreur de cette scène, un grand silence succéda. Pas un bruit dans la maison. L'horloge s'était arrêtée dans l'après-midi. Justine avait oublié de la remonter, et son tic-tac régulier, monotone et triste, ne troublait même pas ce calme de tombeau. Justine restait là, un peu étonnée de ce qu'elle avait fait. Soudain, elle tressaillit, prêta l'oreille. Elle avait cru entendre des pas dans le jardin. Elle savait que le boucher rentrait par là quand il était en retard. Oh non, non, elle se trompait. Mais cela avait suffi pour lui rendre sa présence d'esprit. S'il revenait tout à coup, pensait-elle, il serait capable de me battre lui aussi, qui sait, de me tuer peut-être. Elle se baissa, tira Charlotte par la main, mais Charlotte ne se réveilla pas et la main retomba inerte. « Oh, sans connaissance !» dit Justine. Alors, troublée et les pensées en désordre, elle alla, tâtonnant, chercher des allumettes. Elle ne les trouva pas à leur place habituelle. Elle se souvint qu'elle avait menacé Charlotte au moment où celle-ci cherchait le chandelier. « Oh, sans doute elle les a dans sa main !» murmura-t-elle. Elle se baissa, tâta les mains de la jeune fille. En effet, les allumettes étaient dans la droite. Les doigts étaient crispés autour. Il fallut qu'elle les détendît. Elle avait peur. Enfin, il y eut de la lumière et elle vit Charlotte, la tempe fracassée, gisait dans une mare de sang et déjà la pâleur de la mort avait envahi son visage. « Ah, mon Dieu !» dit Justine. « Ah, mon Dieu ! Comme elle est laide ! On dirait qu'elle est morte. » Elle la secoua encore rudement et l'appela « Charlotte, Charlotte !» Tout le sang de la pauvre fille semblait sortir par le trou horrible de la tête. Cette plaie lui fit peur, elle ferma les yeux. « Je frappais trop fort » balbutia-t-elle. Elle déboutonna la robe de Charlotte, dégrafa le corset, glissa la main jusqu'au cœur. Celui-ci ne battait plus. effaré, les lèvres sèches, ne pouvant plus avaler sa salive tant elle avait de terreur, elle approcha la lumière du visage de la jeune fille et regarda. Les yeux grands ouverts étaient vitreux. La main de Justine tremblait si fort qu'elle agita la chandelle et que des gouttes de suif tombèrent sur le globe de l'œil de Charlotte. Elle ne bougea pas. Oh, la vieille se sentait devenir folle. « Oh non, non, dit-elle, non, mais je voulais pas la tuer, je voulais pas la tuer. Ce n'est pas possible, elle n'est point morte. Elle fait exprès de rester comme ça, immobile pour m'effrayer, mais elle se réveillera, bien sûr. » Et d'instinct, poussé par une invincible force, son regard se reportait sur la blessure et s'y attachait obstinément. Déjà, le sang ne coulait plus. Mais il en avait une mare sur les briques autour d'elle. Elle prit Charlotte à bras-le-corps, la souleva, lui appuya le dos contre le mur auprès de la porte d'entrée. Le corps s'affaissa, la tête retomba sur la poitrine. Il n'y avait plus de doute, c'était bien un cadavre. Justine, quand il eut cette certitude affreuse, se laissa tomber sur une chaise défaillante. Elle se sentait mourir d'épouvante. « Oh, quel malheur !» murmurait-elle entre ses dents. « Mais que faire ? Quelle était sa prostration ?» Qu'elle n'entendit pas le bruit d'une chaise qu'on heurtait dans l'arrière-boutique et qu'elle ne vit pas la porte s'entrouvrir et la tête pâle de Naboth s'avancer doucement. Se fixer sur elle d'abord et sur le cadavre ensuite. Mais cela dura ce que dure un éclair. Naboth disparut et péniblement, se traînant sur les mains et sur les genoux, regagna sa chambre et son lit. Ses dents claquaient. Elle avait une faiblesse et son visage était aussi pâle que celui de Charlotte. Oh, il était temps qu'elle rentrât. Justine venait de se lever. La pensée de Denise ayant assisté à cette terrible scène, de Denise, témoin de son crime, avait traversé le cerveau de la vieille. Doucement, retenant son haleine, évitant le moindre bruit, elle traversa la boutique. Puis l'arrière-boutique entra dans le cabinet de Naboth et s'avança jusqu'à son lit. L'infirme, entendant venir sa mère, avait vivement fermé les yeux. Justine se pencha au-dessus d'elle et l'examina avec attention. « Oh, elle dort !» murmura-t-elle. « Elle n'a rien vu !» Et elle s'éloigna, suivie par le regard épouvanté de Naboth. Quand elle se retrouva dans la boutique, en face du cadavre, « Il ne peut pas rester là, se dit-elle, si on frappait, si j'étais obligé d'ouvrir, si Orion rentrait. » L'horreur du crime qu'elle avait commis lui avait enlevé pendant un moment son courage, sa présence d'esprit, mais le danger qu'elle courait lui rendit son énergie. Elle ramassa les deux morceaux du fouet, sortit dans la cour pour aller chercher de l'eau, et comme la porte de l'abattoir était ouverte, cacha le fouet sous la paille amoncelée près du mur. Elle revint avec un seau d'eau, le versa sur le sang qui couvrait les briques et l'essuya soigneusement. S'il reste des traces, si jamais on soupçonne quelque chose, murmurait-elle en se tâtant, et en se hâtant avec une activité maladive, on croit que c'est du sang de boucherie. Quand elle eut fini, elle fit détremper les torchons dans l'eau, jeta celle-ci dans l'abattoir et pendit les torchons pour les faire sécher. Elle pensait à tout. Son esprit avait recouvré une lucidité étrange. Elle se pencha sur le cadavre, le prit dans ses bras et avec une force qu'on n'eût pas attendu de sa vieillesse et qui semblait décuplé par la peur. Elle l'enleva et le porta jusque dans le jardin, doucement, évitant le moindre bruit. Puis elle revint une seconde fois au cabinet de Naboth pour s'assurer si dans ses allées et venues, elle n'avait pas réveillé l'infirme. « Non, » dit-elle au bout d'un instant, « rien à craindre de ce côté-là. » Elle avait aux pieds des chaussons de laine. Elle chercha ses souliers et ne les trouva pas. Et dans sa hâte fiévreuse, ne voulant pas rester une minute de plus dans la boucherie avec le cadavre, elle mit ceux de Loriot. Puis elle sortit, mais ne ferma pas la porte. « Si Loriot revenait, mais pendant que je serais parti, » avait-elle réfléchi, « il frapperait. » Et voyant la porte fermée à clé, il pourrait trouver étrange qu'un parieur soit traîné les champs, tandis que la porte étant ouverte, comme c'est l'habitude lorsqu'il est en voyage, il entrera sans défiance, en évitant même de faire du bruit pour ne pas nous réveiller, et ira se coucher immédiatement quand il aura attaché son bœuf à l'écurie. Le cadavre de Charlotte était étendu dans une allée. Elle le prit par les deux bras et se mit à le traîner, se dirigeant vers la porte du jardin qui donnait sur le champ l'oiseau. Le corps broyait les arbustes, les buis, les fleurs dans les plates-bandes, et les cheveux même qui s'étaient dénoués s'accrochaient dans la haie. Mais dans sa hâte d'en finir, elle n'y prenait garde. « Il faut d'abord que je cache le corps, » pensait-elle. Demain, à la pointe du jour, je ferai disparaître les traces. Elle passa la porte et se trouva au bord du champ l'oiseau. Et elle s'y engagea sans avoir vu que Naboth la suivait des yeux. Alors commença l'épouvantable promenade dont nous avons parlé dès le début de ce drame et dont le commissaire Consola avait retrouvé les principaux indices. À cette heure-là, Justine ne pouvait plus penser. Du sang bouillonnait dans sa tête, des sueurs glacées inondaient son front. Elle était folle. À chaque pas, elle trébuchait, lâchait le cadavre et tombait. Elle se relevait sur les genoux, les mains appuyées par terre et les yeux largement dilatés, regardait autour d'elle aussi loin qu'elle pouvait voir, dans la profondeur de la nuit. Et la traînée recommençait avec des peurs atroces au moindre bruit. Elle avait des tremblements nerveux qui la prenaient des pieds à la tête lorsqu'elle entendait des pas sur les pavés rabotés de la rue des Princes, du côté de la boucherie. Elle pensait à Loriot. « Oh, c'est lui !» se disait-elle, « il aura peut-être besoin de moi !» Il m'appellera, et en me voyant pas, voudra savoir où je suis. Et alors il me trouvera peut-être, et je serai perdu. Mais à mesure que les pas s'éloignaient, elle recouvrait un courage nouveau. Et les défaillances la reprenaient plus loin, quand elle distinguait un arbuste qui revêtait un aspect fantastique et semblait s'animer soudain. Ou bien, quand des frissons subits passaient dans les arbres, sur les coteaux en face, pareil à des réveils brusques d'esprits invisibles. Elle voyait des témoins de son crime partout autour d'elle. Un arbre cassé en deux par un orage qu'elle n'avait pas aperçu et qui eut l'air de se dresser tout à coup près d'elle pour lui barrer le passage, lui fit lâcher le cadavre et prendre la fuite les mains devant les yeux. Elle mit 10 minutes à se remettre et à revenir. Elle venait d'arriver au petit ruisselet qui coupe en deux le champ l'oiseau. Elle était si fatiguée, sa prostration était si grande, qu'elle se laissa choir et qu'elle resta là un bon moment, ayant perdu connaissance. Quand elle revint à elle, comme le cadavre était là près de sa main, elle le tâta une dernière fois, en se traînant à genoux dans l'herbe qui la mouillait. Et elle murmurait, Peut-être bien qu'elle n'est pas morte et qu'elle n'était qu'évanouie. Le froid de la nuit la réveillera. Mais elle ne pouvait s'y tromper longtemps. Charlotte était déjà glacée, déjà rigide. « Oh, Dieu, mon Dieu !» murmura Justine, « qu'est-ce que j'ai fait là ? Si l'on vient me découvrir ?» Cette pensée lui fit retrouver du courage. Elle avisa les broussailles qui recouvraient le ruisseau près du pont, à l'endroit où elle était. « Bon, je vais la cacher là, » dit-elle. Et elle essaya de jeter le cadavre sous les branches. Mais il fallut bientôt y renoncer. Le buisson n'était pas assez épais. Dès l'aurore, le premier ouvrier, le premier gamin qui eut passé là, eut tout découvert. « Me vais le porter dans le bois !» murmura Justine. Elle passa le pont, traînant Charlotte par les pieds. Mais le bois était clairsemé. Là aussi, comme dans le buisson, il eût été dangereux de laisser la morte. Elle s'arrêta, s'assit dans l'herbe et reprit haleine. Elle n'en pouvait plus. La sueur ruisselait sur son visage. Son bonnet noir était dans son dos, retenu seulement par les cordonnets autour du cou. Sa robe était déchirée. Ses cheveux pendaient en désordre sur ses épaules. « Où vais-je la cacher ?» se demandait-elle dans une horrible angoisse. Tout à coup, elle se ressouvint qu'il y avait une meule de paille dans le champ l'oiseau. « Oh !» dit-elle, « si je pouvais aller jusque-là, je serais sauvée. On ne viendra pas chercher la meule avant l'hiver, peut-être, et d'ici à l'hiver, il sera plus possible de retrouver une preuve contre moi. » Pourquoi Charlotte assassinée par n'importe qui ? Mais on ne me soupçonnera point. » Elle rebroussa chemin, repassa le pont, et prit à gauche dans la direction de la meule de paille. Son haleine sortait en sifflant de sa gorge, et en était effrayée. À mi-chemin de la meule, elle entendit un bruit de pas, des voix sur la route. Elle se jeta à plat ventre pour se dissimuler de son mieux, ne songeant pas que dans l'obscurité intense de cette nuit, il était impossible de distinguer à 10 pas. C'était une bande d'étudiants qui revenaient de Villebon avec des femmes. On distinguait les voix cassées de celles-ci qui chantaient sur le ton aigu. Au bois de Meudon, battez tambour, sonnez trompette, au bois de Meudon, sonnez trompette, d'éclairons. Il y avait une cacophonie. Des voix plus graves d'hommes chantaient à tue-tête la mandolinata de Paladine. Ah, que la nuit est belle, la lune va briller, à sa clarté, en liberté, amis, allons rêver. Puis quelquefois, on interrompait le bois de Meudon et la mandolinata, et c'était des cris, des huées, des éclats de rire bruyants, aigus, des courses folles dans le chemin auprès des femmes qui s'enfuyaient. Ensuite, 2 ou 3 entonnaient, pour marquer le pas, une scie qui fit les délices du quartier latin pendant 6 mois. De quoi qu'il y a 4 hymnes de Russie. Justine écoutait machinalement ces folies de jeunesse et tous ces cris qu'elle percevait distinctement. Et les mêmes voix continuaient. « De quoi qu'il y a 8, il y a 8 Torrigo !» Et bientôt, tout au fond de la rue des Princes, on n'entendit plus que des bruits vagues, des rumeurs indéfinies. Le calme renaissait autour d'elle. Elle se releva, gagna la meule, toute frémissante. Des bouts de phrases entrecoupées, des mots inintelligibles sortaient de ses lèvres. Elle avait soif. Elle courut jusqu'au ruisseau, se pencha, but avidement des gorgées de l'eau bourbeuse et revint un peu soulagée. Alors, poignée par poignée, elle se mit à arracher la paille de la meule à hauteur de sa tête. Elle faisait un trou, péniblement, se déchirant les mains, se cassant les ongles. Quand elle eut fini, là, dit-elle, c'est fait. Elle recueillit ses forces, enleva le cadavre dans ses bras, tous ses nerfs, tous ses muscles tendus. Mais deux fois, ses forces la trahirent. Deux fois, Charlotte lui échappa. Elle se mordit les lèvres jusqu'au sang. Oh, dit-elle avec râle, il faut pourtant que j'y arrive. Une dernière fois, elle essaya. Elle y réussit. Le corps tout entier de la jeune fille s'engouffra dans le large trouée qu'elle avait faite. Aussitôt, elle reprit la paille arrachée et la replaça de manière à dissimuler l'entrée du trou et à cacher le cadavre. Il était 10 heures quand elle revint à la boucherie. Elle rentra, tout était tranquille. Nabot était dans son lit et semblait dormir. Sans doute, elle ne s'était pas réveillée. Elle ne se douterait de rien. Alors, elle, Justine, n'aurait que le souvenir de cette nuit affreuse qui la hanterait. La justice humaine ne s'occuperait pas d'elle. Et quand elle découvrirait le crime, oh, assez de temps se serait écoulé pour que la coupable n'eût plus rien à craindre. Elle se coucha, transie de froid, après avoir caché ses vêtements dans les déchirures et les taches de sang et de boue pouvaient exciter les soupçons. Mais elle n'essayait même pas de dormir. Le fantôme de Charlotte et la loyale figure de Loriot étaient assis au pied de son lit. Quelques minutes après 11 heures, elle entendit du bruit dans le jardin, du côté de l'écurie. Oh, c'est Jacques, se dit-elle. Et elle écouta, anxieuse. C'était lui, en effet. Il rentrait. La chambre où elle couchait était tout près de celle de son fils. Elle l'entendit qui montait. Elle fut un peu tranquillisée. Oh, s'il avait eu besoin de moi, pensa-t-elle. Jamais n'aurait pu lui dissimuler le malheur de notre maison. Et la nuit se passa ainsi, pleine de cauchemars. À la pointe du jour, Justine était debout. Quand elle descendit dans l'arrière-boutique, Nabot s'y trouvait. Les yeux de la mère et ceux de la fille se croisèrent et Justine pâlit. Un moment, elle crut que l'infirme savait tout, tant révélait d'épouvante le regard profond de la pauvrette. « Pourquoi t'es-tu levée si tôt ?» demanda-t-elle. « Je me suis trompée d'heure, fit Nabot. Et elle rentra dans son cabinet. La vieille sortit dans le jardin et se mit à contempler vaguement le pré, les coteaux, le chant l'oiseau, et les moindres recoins qui lui rappelaient l'épouvantable odyssée de la nuit. Est-ce que je n'ai pas rêvé? Se demandait-elle. En effet, ce qui s'était passé était si surprenant que cela ressemblait à un rêve. Mais hélas, tout n'était que trop vrai. Quelle vie commençait pour elle? Est-ce que la mort n'était pas préférable? Quand Loriot descendit, il embrassa sa mère. C'était son habitude de tous les matins, jamais il n'y avait failli. En l'embrassant, il remarqua sa figure décomposée. Est-ce que vous êtes malade? Dit-il. Mais elle le tranquillisa. Non, non, j'étais énervée, inquiète de ne pas devoir rentrer. J'ai passé une mauvaise nuit. Il lui raconta l'accident de la veille, la fuite du bœuf. Puis il entra à l'abattoir. Les garçons de boucherie arrivaient. Il se mit à la besogne sans plus tarder. Justine remonta dans sa chambre, y travailla quelques instants, puis passa dans celle de Loriot pour la mettre en ordre. Celle-ci, nos lecteurs le savent, donnait sur le jardin et la campagne. Instinctivement, elle se rapprocha de la fenêtre. Son regard erra dans le champ l'oiseau et s'arrêta sur la meule. Elle semblait fascinée. « C'est là, se disait-elle, c'est là que Charlotte. Je vois bien la place. Moi, je n'ai pas enlevé toute la paille répandue par terre. Oh, si on se doutait !» Le soleil s'était levé radieux. Le ciel était pur. De frais parfums de feuilles et de fleurs sauvages arrivaient jusqu'à la boucherie. Justine fut tranquille jusqu'à 5 heures du matin. À 5 heures, elle venait d'ouvrir la devanture de la boutique et balayait le seuil de la porte en jetant un coup d'œil épouvanté sur les briques à peine sèches du sang de Charlotte. Lorsque la charrette des ouvriers du fermier Maduret déboucha dans le haut de la rue des Princes. Elle eut un coup au cœur. Elle savait que le champ l'oiseau appartenait au fermier Maduret du Bas-Meudon. Quand la voiture passa devant la boucherie et que Guedet, l'un des ouvriers, lui dit qu'ils allaient charger la meule, elle eut comme un éblouissement et fut obligée de s'appuyer sur son balai pour ne pas tomber. Elle remonta dans la chambre de Loriot et de là guetta tous les mouvements des ouvriers. Aucun détail ne lui échappait. Elle vit la charrette s'arrêter, les ouvriers se mettre à l'ouvrage et Guedet tomber de la meule sous les pieds des chevaux en découvrant le cadavre de Charlotte. « Oh, je suis perdue, dit-elle, on va venir ici. » Et elle s'enfuit dans Meudon, affolée, parcourant les rues, portant au bras un panier qu'elle avait pris comme pour faire des commissions. Le hasard de ses courses la fit revenir sur le chemin de la boucherie une demi-heure après. Il y avait dans la rue des Princes une animation inusitée. Des femmes l'abordèrent avec effarement. « Mère Loriot, vous venez de la boucherie ?»« Non ? Alors vous savez pas ce qu'on dit ?»« Quoi donc ?» Elle ouvrait les yeux, faisait l'étonnée, se rapprochait comme si elle allait entendre un des 1000 cancans du village. « Mais Charlotte, votre caissière a été assassinée cette nuit. On vient de retrouver son cadavre enfoui dans la meule. » « Oh, mon Dieu !» disait Justice. « Quel malheur !» Et plus loin, la même scène recommençait. Elle tournait autour de la boucherie sans oser y rentrer. Une centaine de curieux se pressaient aux abords. Tous ces gens-là lui faisaient peur. Il lui semblait qu'on venait lire sur sa physionomie le preuve de son crime. La pensée de Loriot surtout lui venait. Elle murmurait « Oh, il devinera tout de suite que c'est moi qui ai tué Charlotte. Qu'est-ce que je répondrai ? S'il me livre à la justice, oh, car il en est capable dans un moment de colère. Qu'est-ce que je ferai ? Mais qu'est-ce que je dirai ?» Puis, poussée par un instinct, elle rentra. Ce fut juste à temps pour voir Loriot qui s'enfuyait de la boucherie et courait vers le champ l'oiseau. La fine qui sortait dit à la vieille. « Faudra prendre garde, mère Loriot, votre fils est comme fou !» Elle entendit cela mais ne le comprit pas. Dans l'arrière-boutique, elle tomba inerte sur un escabeau. Nabot, qui venait de se lever péniblement, sans le secours de personne, se traîna dans la boutique et revint après avoir jeté un coup d'œil dehors. « Tu sais ce qu'on dit ?» fit la mère. Mais Denise ne répondit rien et détourna la tête. Justine lui faisait d'horreur après ce qu'elle avait vu la nuit. Et la vieille ne bougea plus jusqu'à l'arrivée de Consola. Nos lecteurs savent ce qui se passa ensuite, les soupçons qui pesèrent sur Loriot, les indices retrouvés, l'arrestation du jeune homme, ses dénégations énergiques, son désespoir. Nous allons donc reprendre la suite de notre récit. Les péripéties de ce drame, une fois connues, il est facile de s'expliquer l'erreur dans laquelle tombèrent les agents de police, Méronvel et ses acolytes, lorsqu'ils guettaient et surprenaient Justine, s'en allant par la nuit sur le parcours sinistre qu'elle avait suivi quelques jours auparavant, et lorsque Méronvel, du toit de l'abattoir, ne perdait pas un mouvement de la scène qui se passait entre la vieille et le grand Loriot, dans la chambre de ce dernier. Comme l'agent ne put rien entendre des paroles qui furent échangées entre la mère et le fils, il mit sur le compte de la culpabilité de Loriot tous les gestes véhéments qu'il surprit. Et c'est ainsi qu'il les rapporta au juge d'instruction. Ce qu'il remarqua d'abord quand les deux personnages de cette scène entrèrent dans la chambre, ce fut l'accablement de Loriot, qui tomba sur une chaise, la tête enfouie dans son lit, et la tristesse de la mère qui n'osait s'avancer. Puis Justine avait questionné son fils, cherchant sans doute à ce que pensait Méronvel, à apprendre de sa bouche même les circonstances qui avaient amené le meurtre de Charlotte. Et Loriot avait tout dit, parlant avec emportement, se laissant aller à la brutalité de sa nature violente. Après cela, il s'était tu, avait croisé les bras. Et ça avait été le tour de la mère. Elle s'était mise à genoux, se traînait devant lui, en l'enveloppant de ses bras et pleurait. Son attitude, le moindre de ses gestes, indiquait suffisamment qu'elle implorait. Cette pose à genoux, ses mains jointes, les regards désespérés, et tout cela était une supplication. Mais Méronvel avait trouvé que c'était très clair. « Parbleu, se disait-il, je comprends la scène. Il faudrait être un fier imbécile pour ne pas la toucher du doigt. Il est évident que le fils vient de raconter le crime à sa mère et que, se croyant en sûreté après son élargissement, il a pris la résolution de rester à la boucherie, persuadé qu'on ne l'inquiéterait plus. Mais la mère plus fine, plus craintive, ne le voit pas en sûreté et le supplie de partir. Il résiste d'abord, repousse brusquement. Justine qui l'enlace et continue de pleurer. Mais après un combat intérieur, après des hésitations, il finit par se rendre sans doute aux raisons qu'il vient d'entendre et il fait tous les préparatifs d'un départ précipité qui ressemble à une fuite. Et c'est à ce moment, comme on l'a vu, que Méronvel, dégringolant du toit, avait laissé échapper son juron favori, d'eau d'un bois mort. 3 jours après, le grand Loriot était arrêté au Havre, au moment de s'embarquer sur un paquebot à destination de l'Amérique. La ruse de Méronvel avait réussi. Il ne restait plus à M. de Valmar, le juge d'instruction, aucun soupçon sur la culpabilité du grand Loriot. Le dossier fut envoyé à la chambre et l'affaire dite du boucher de Meudon mise au rôle de la première session des assises qui devait se tenir quelques jours après. Fin de la deuxième partie.